8h24.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le directeur général de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Vos questions et réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Jean-Luc Tavernier, bonjour.
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 Et bienvenue sur Inter où vous allez nous révéler, en ce jour où Gabriel Attal prononce son discours de politique générale, le tableau économique de la France. Dans quel État est le pays? La croissance tient-elle le choc? Si la situation est préoccupante, par exemple en Allemagne, en sommes-nous affectés par ricochet? L'inflation est-elle vraiment derrière nous, comme le dit Bruno Le Maire? Bref, vous le voyez, nous avons beaucoup de questions à vous poser ce matin. Mais pour commencer, en quelques mots, même si vous êtes un homme de chiffres, comment voyez-vous 2024 sur le front économique? Est-ce que le pire est passé en 2023? Va-t-on vers le meilleur, vers la stagnation? À quoi peut ressembler le paysage ?
Bien, alors 2023, on vient de sortir le dernier trimestre de l'année, là, ce matin même. Donc une croissance à zéro, 0-0 au quatrième trimestre de l'année. Pas de changement par rapport au trimestre précédent. C'était la même chose au troisième trimestre. Donc ça fait un ralentissement quand même assez fort sur la fin d'année 2023. Alors on peut y voir, comme toujours, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est qu'effectivement, on est dans un ralentissement assez sensible en cours d'année 2023. Le verre à moitié plein, c'est que, pour être sincère, on nous aurait dit il y a un an, au plus fort de la crise énergétique, on s'en sort avec pas de récession, puisqu'on évite la récession, et finalement une croissance en moyenne annuelle sur l'année 2023 qui sera 0,9%.
Oui, ça c'est le chiffre que vous révélez ce matin. Voilà. En fait, vous avez sorti toute une série de chiffres qui sont les chiffres définitifs, parce qu'il faut expliquer aux gens. En général, il y a les prévisions de Bruno Le Maire, les prévisions de la Banque de France, et puis à un moment, l'INSEE tranche à la fin en disant voilà à combien a été la croissance en 2023. Et donc, le gouvernement prévoyait une croissance de 1%. Ils se sont pas tellement trompés puisqu'elle est de 0,9 sur 2023, malgré, c'est ce que vous dites, une croissance nulle au dernier trimestre et au trimestre d'avant. Donc en fait, le début d'année 2023 a été très bon, et ensuite, pas trop.
Voilà, exactement. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on passe de l'analyse conjoncturelle de la prévision à, pour la première fois, la publication des comptes. C'est pas complètement définitif, parce qu'il peut encore être révisé au fur et à mesure qu'on a des informations nouvelles. Hein. Quand on sort les comptes du trimestre, à la fin du mois qui suit le trimestre, il y a encore plein d'informations à venir, donc il y aura peut-être des révisions. Mais ça changera pas la
Mais ce qu'on doit lire sur le tableau globale, économique de la France, c'est que l'année 2023 avait bien, très bien commencé, ce qui nous permet de terminer l'année 2023 avec une croissance. Enfin, il n'y a pas de récession contrairement à l'Allemagne, par exemple, mais qu'elle est nulle au dernier trimestre.
Et ça se voit dans les enquêtes de conjoncture, c'est-à-dire qu'on a un ralentissement progressif des enquêtes de conjoncture depuis plusieurs mois. C'est vrai du climat des chefs d'entreprise sur l'activité, c'est vrai de leur climat sur l'emploi aussi, hein, qui est revenu à la moyenne historique alors qu'il était longtemps au-dessus. En revanche, la confiance des ménages remonte un petit peu. Elle est plongée en 2022 au moment de la guerre en Ukraine. Vraiment, elle est tombée très très bas. Elle a refait la moitié du chemin, hein, déjà, la confiance des ménages. Et c'est un peu les motifs d'espérance pour l'année 2024. C'était votre question. Où on peut espérer que la désinflation, on va en parler, fait son œuvre. On regagne du pouvoir d'achat et ça alimente de la consommation et il y a à nouveau de la croissance positive. Ce qu'on avait prévu, nous, dans la dernière note de conjoncture, alors là, on est dans le domaine de la prévision, pour le premier et deuxième trimestre de 2024, c'était 0,2% de croissance chacun des trimestres.
0,2% chacun des trimestres.
Chacun des trimestres du début de l'année 2024.
Ce qui serait pas mal, ce qui
alors,
serait...
Vous voyez comment toujours le verre à moitié
vide. Oui, mais je sais bien, mais...
C'est mieux que les zéros de la fin d'année 2023. Et 0,2 par trimestre, bah, ça vous fait sur l'année, ça vous fait quelque chose qui reste...
Mais si vous comparez à nos voisins, comment résiste l'économie française par rapport... Bon, l'Allemagne, ça va pas. Mais nos autres voisins, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, comment vous jugez la France?
On devrait avoir incessamment les chiffres de la zone euro de la même manière. Hein. Je pense qu'on sera un petit peu au-dessus. Ce qu'on pourrait être plutôt sur la zone euro, c'est c'était 0,5. Là, on a 0,9 pour 2023. Si on compare avec les autres pays, c'est assez net que l'Allemagne est en dessous, donc plombée par un poids beaucoup plus important des industries énergivores, très consommatrices d'énergie, et que l'Espagne est au-dessus, qui avait encore un potentiel de rattrapage post-Covid, le tourisme, etc. Mmh. Et puis avec l'Italie, on est à peu près dans les mêmes eaux.
Ouais. Voilà, et le taux de croissance pour 2024, donc vous nous dites plus 0,2 sur les deux premiers trimestres, ça c'est vos prévisions. Le gouvernement vise 1,4% sur l'année 2024. Est-ce que vous aussi, vous voyez une croissance qui redémarrera à l'été et le deuxième semestre?
Alors ça peut aller plus vite, les raisonnements pourraient conduire à ce que ça accélère en fin d'année 2024. Pas jusqu'à aller à 1,4 de moyenne annuelle, sans doute, mais...
Vous êtes prudent là-dessus,
Le ministre aura sans doute l'occasion de vous en reparler.
La Banque de France dit 0,9, vous êtes plutôt sur ce...
Franchement, nous, notre horizon, il s'arrête à la fin du deuxième trimestre. À la fin du deuxième trimestre, l'acquis, c'est s'il n'y avait pas de croissance du tout, à la fin d'année 2024, ça serait 0,5, quelque chose comme ça. Il y aura un peu de croissance, donc ça sera plus. Mais vraiment, je ne vous donnerai pas de chiffres, car on ne fait pas l'exercice complet sur l'année.
Alors, qu'en est-il maintenant, Jean-Luc Tavernier, de l'inflation? Vous avez révélé qu'elle atteignait 4,9% sur un an en 2023 contre 5,2% en 2022. Bruno Le Maire dit, lui, que l'inflation est derrière nous. Est-ce que vous employez les mêmes mots que le ministre de l'Économie?
Alors nous, ce qu'on a mis, d'ailleurs c'était le titre de notre dernière note de conjoncture en décembre, c'était désinflation en bonne voie. On est toujours dans l'incertitude, etc. Là, on se mouillait un peu, on disait vraiment, on est dedans, ça...
Non, c'est vrai. Là, vous êtes au max de se mouiller.
Ah oui, là, mais vraiment...
Vous étiez dans l'eau, là, carrément.
Au taquet, je vous assure. Alors, si on regarde
parce que l'INSEE est toujours prudente et s'appuie sur les chiffres.
Si on regarde les moyennes annuelles que vous citez, on est passé de 5,9 en 2022 à 5,2 pardon, en 2022 à 4,9 en 2023, ce que vous venez de dire. Donc là, on se dit, ça change pas d'une année sur l'autre. En fait, ça masque des mouvements importants, parce que l'inflation, elle a monté jusqu'au début de l'année 2023, de l'année passée. Elle atteignait, dépassait plus de 6% hein, au printemps 2023, donc il y a un peu moins d'un an. Et elle a baissé continuellement depuis. Le dernier glissement annuel d'inflation, c'est le 8 décembre, il est de 3,7%. Demain, on sort le glissement annuel d'inflation de janvier. Alors, je vous vois gourmand, mais je ne vais pas vous l'annoncer là.
Oui, on est gourmand, bien sûr.
Mais ce qu'on avait prévu, c'était que ça continue à baisser.
Ça va continuer à baisser en janvier.
Alors, on dit bien le rythme d'inflation baisse. Hein. Ça ne veut pas dire que les prix baissent d'autant. Ça veut dire
oui, c'est une comparative sur un an.
Sur 12 mois, ralenti. Donc on s'attend à... Je serais très surpris s'il n'y avait pas, conformément à la prévision qu'on a mise, une nouvelle réduction du glissement annuel d'inflation demain dans les chiffres de janvier. Et notre prévision à horizon de juin, là où on s'arrêtait, c'était de revenir dans des eaux de 2,5% et même pour l'inflation sous-jacente autour de 2%.
Oui, mais vous savez ce que
donc c'est effectivement en bonne voie.
Vous savez ce que vont vous dire les Français qui font leurs courses, c'est que eux, ils la voient pas, la baisse de l'inflation, ils continuent de voir que les prix alimentaires ont augmenté nettement avec des paquets de pâtes, de l'huile qui est à plus 10, parfois plus 15, plus 20, parfois plus 30% du prix avant l'inflation.
Oui, alors, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que l'inflation, c'est pas le niveau des prix, c'est-à-dire que quand on dit que l'inflation baisse, ça ne signifie pas qu'on revient au niveau des prix d'avant, c'est de poussée inflationniste qu'on a connue depuis 2021. Et donc les prix des pâtes, des œufs, du lait restent plus élevés.
Ils ne baisseront
Je ne crois pas qu'ils continuent d'augmenter.
Oui.
Mais ils ne baisseront pas.
Quand on voit nos derniers chiffres qu'on compare au mois le mois, on est plutôt sur une stabilité aujourd'hui des prix des produits alimentaires.
Pour beaucoup de Français, les salaires restent trop bas et la moindre hausse des prix de l'énergie, du carburant est difficilement surmontable. L'annonce de Bruno Le Maire que les prix de l'électricité augmentent de presque 10% en février, est-ce que ça passe particulièrement mal?
Écoutez, alors moi je peux guère en juger par les enquêtes de conjoncture. On interroge 2000 ménages chaque mois. Encore ce que je vous disais tout à l'heure, leur morale était tombée très très bas. On regarde leur indication sur le niveau d'activité, sur le niveau des prix, sur le niveau de chômage. Et ça remonte quand même graduellement. Donc est-ce qu'on a vu encore dans ce qu'on a publié la semaine dernière, ça continuait à remonter. Donc le moral des ménages tombait très bas, mais quand même redevient à des niveaux plus raisonnables. Dans les prévisions d'inflation que je vous ai données là, donc qui arriveraient à autour de 2,5% en milieu d'année, qui pourrait même être un peu en dessous au printemps, on tient bien compte de la hausse des prix de l'électricité qui est prévue. Enfin, on a fait une hypothèse.
Mais Nicolas parlait des salaires. Est-ce qu'on peut imaginer, et c'est la une du Parisien ce matin, quelle hausse de salaire en 2024 les experts imagine que les salaires pourraient augmenter de 3,5 à 4 % cette année. Est-ce que vous voyez des salaires qui augmentent plus vite que l'inflation?
Oui,
en 2024, que... est-ce que ça, ce serait de l'ordre d'une bonne nouvelle économique?
On est sans doute au moment où ça se croise. C'est-à-dire que pendant les deux années 2022-2023, et c'est normal quand il y a de l'inflation, c'est de l'inflation importée, hein, il faut bien avoir en tête, hein. Les salaires suivent avec retard l'inflation. Le SMIC est indexé, mais avec un peu de retard. Et les autres salaires le suivent aussi avec retard. On a des pertes de pouvoir d'achat qui sont attendu, mais on sait aussi que quand il y a de la désinflation, on va avoir l'effet contraire. C'est-à-dire qu'on peut penser que les évolutions de salaires vont devenir plus fortes que les évolutions des prix à partir de ce début d'année 2024.
Et donc ça va avoir un effet sur la consommation, notamment.
Ça va avoir un effet sur
ça
le pouvoir d'achat,
avoir, en tout
comme
cas.
L'effet des revalorisations de prestations, et des revalorisations de prestations de retraite notamment, de prestations familiales qui arrivent là en début d'année, qui sont fondées sur l'inflation de l'an dernier, qui sont assez élevées et qui vont donc
et
aussi alimenter...
qui se traduiront dans la croissance.
Et qui vont alimenter du pouvoir d'achat, et pour peu qu'il y ait un peu de confiance des ménages, de la consommation et de la croissance.
Ça, c'est le bon côté, comme vous dites, le verre à moitié plein sur les salaires. Le verre à moitié vide, c'est de voir qu'il y a, et même le Premier ministre Gabriel Attal l'a évoqué, une smicardisation de la société. Alors que les smicards, ceux qui touchaient le SMIC, ne constituaient que 12% des salariés français il y a 3 ans, aujourd'hui, ils sont à plus de 17%. Qu'est-ce que ça dit de la société? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'on va vers une smicardisation du monde du travail?
Alors, il y a un phénomène un peu conjoncturel, puis quelque chose de plus structurel. Un mot sur le phénomène conjoncturel. Quand on a comme ça cette hausse d'inflation qui vient des prix étrangers, des prix importés, des prix des matières premières, alimentaires, des prix de l'énergie, le SMIC est indexé. C'est la loi. Dès qu'on a 2 points d'inflation, on remonte le SMIC. C'est pas le cas des autres salaires. Donc ça se tasse forcément. Pour cette raison-là. Ça, c'est le phénomène conjoncturel. Il y a plus de personnes qui sont au SMIC ou à proximité du SMIC. Le phénomène plus structurel, c'est qu'on a des grilles dans toutes les branches qui sont très tassées. Quand on gagne un peu en ancienneté, on monte en grille, mais on gagne un petit peu de salaire, pas beaucoup, parce que le SMIC lui-même est assez proche, en fait, dans ce pays, du salaire médian de l'ensemble des salariés. Et l'autre problème que l'on connaît, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été faits pour inciter les gens à la reprise du travail, comme ça a été la prime, la PPE, le RSA, maintenant ça va être la prime d'activité. Et évidemment, quand on augmente en salaire, on va perdre du bénéfice de ces dispositifs, on va perdre des allocations de logement, éventuellement on rentre dans le barème de l'impôt sur le revenu. Donc en plus, ce qu'on gagne un petit peu en termes salarial, on en gagne moins en termes de revenus. Donc on a ce problème, effectivement, d'une classe moyenne qui voit peu le fruit de ses efforts lorsqu'elle gagne en ancienneté, en compétences.
C'est quoi la classe moyenne pour le patron de l'INSEE que vous êtes?
Alors,
vous savez définir la classe moyenne?
Et je pense qu'on l'a fait pour répondre à la demande, on l'a fait dans une publication récente. Mais nous, clairement, on a redéfini le seuil de pauvreté, c'est des règles internationales. Et parce qu'il y a une politique de lutte contre la pauvreté. On nous avait demandé il y a quelques années de faire un seuil de richesse et j'avais répondu avec une collègue dans un billet de blog. Non, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. C'est pas aux statisticiens de dire qui est riche, qui est. Et dans la classe moyenne, vous pouvez avoir des situations très différentes, hein, selon que vous ayez des intérêts d'emprunt parce que vous êtes en train d'acheter votre maison et que vous n'avez pas remboursé, que vous êtes au loyer, un loyer plus ou moins élevé. Vous avez des situations très très différentes. Alors, moi, une espèce de fétichisme de mettre les gens dans un truc, non, pas tellement. En revanche, on a des tas de publications qui vous montrent la situation des ménages selon leur décile de revenus, c'est un peu technique, mais dans quel dixième de revenus ils sont, etc., etc.
Allez, on passe au standard. Jacques nous appelle d'Arras, je crois. Bonjour.
Merci France Inter de prendre ma question.
Je vous en prie.
Je voudrais demander, au spécialiste des chiffres qui est le président de l'INSEE, comment il peut m'expliquer que mon pouvoir d'achat va augmenter alors que le prix de l'électricité va augmenter de 10% prochainement avec les taxes et que mon salaire n'augmentera pas. Pour information, l'évolution du prix du kilowattheure d'électricité depuis 2002, c'est plus 101%. Et on va dire que c'est l'augmentation la moins forte. Le mètre cube de gaz a augmenté de 187%, et le mètre cube d'eau, lui, n'a augmenté que de 20%.
Merci Jacques pour cette intervention. On va donner la parole également à Claude qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
En fait, je reprends un peu la réflexion de la personne d'avant. C'est-à-dire que, en fait, moi, je conteste, en fait, le calcul de l'inflation parce qu'on ne tient pas compte de plein de, notamment, par exemple, de la taxe foncière qui va augmenter également, qui a augmenté l'année dernière et qui va augmenter encore cette année de 7%. Et par contre, dans le calcul de l'inflation, on intègre des choses que moi, je ne consomme pas tous les jours, genre des téléviseurs, des ordinateurs portables ou des ordinateurs de façon générale, les téléphones, etc. En fait, les calculs sont faussés. Moi, je m'excuse, quand on est dans les catégories des gens qui sont moyens, on va dire, ben, on consomme de la nourriture tous les jours, on consomme de l'électricité, surtout comme moi, ben, j'ai pris une PAC, une pompe à chaleur, pour mon installation personnelle, j'ai acheté une voiture électrique, ben, tout ça, ça va peser énormément sur mon budget quotidien. Mmh. Par contre, je m'excuse, j'achète pas un ordinateur tous les jours, hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, je pense qu'on fausse les calculs de l'inflation. La vraie inflation, c'est celle qu'on consomme tous les jours.
Merci Claude pour cette question. Alors, que répondez-vous Jean-Luc Tavernier à nos deux auditeurs dont les interpellations vont dans le même sens?
Oui, bien sûr, je vais répondre. Alors, à la fois à Jacques et Claude. À Jacques, je dis bien que, d'abord, sur l'année 2023, ce qu'on a, c'est une très forte, très faible hausse du pouvoir d'achat sur 2023. Si on tient compte de l'augmentation de la population, des situations familiales, c'est vraiment à peine un maintien du pouvoir d'achat pour les ménages. Pour 2024, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on pouvait prévoir que le pouvoir d'achat allait se rebondir un petit peu. C'est en moyenne. Pour quelqu'un qui ne voit pas d'augmentation de son salaire, clairement, il n'y aura pas de hausse de pouvoir d'achat. Mais il y aura beaucoup de gens qui vont voir une augmentation de leur salaire. On l'a dit, les personnes qui bénéficient de prestations sociales vont avoir des revalorisations. Donc, en moyenne, bien sûr, mais... Et il faut échapper à la dictature de la moyenne. C'est pour ça qu'encore une fois, on a des tas de publications qui montrent l'évolution des inégalités. Et puis à Claude, je vais répondre que bien sûr qu'il faut aussi qu'on rende compte de ce que c'est que la consommation courante. Et on a chaque mois, en même temps qu'on publie l'indice des prix, vous pouvez le vérifier. Demain, il y aura une analyse des prix des produits de la grande consommation, ce qu'on achète notamment dans la grande distribution, et vous verrez que ça augmente beaucoup plus, ça a augmenté de 10-12% les mois précédents sur l'année, conformément à ce qu'on entend, à ce que les uns ou les autres pouvaient faire dans certains médias pour suivre des paniers types, des chariots types. Donc il n'y a pas de problème de cohérence entre nos chiffres et cela, mais il est aussi important, nous, dans l'analyse des prix, qu'on prenne en compte les achats qui sont faits moins fréquemment. La télévision, même si on ne l'achète pas tous les ans, ou l'ordinateur, ou la pompe à chaleur que vient d'acheter Claude,
il faut elle rentre dans vos calculs.
Il faut qu'elle rentre. Elle rentre en fonction de son poids moyen, zéro pour la plupart des années, et puis de temps en temps, un point important, l'année où on dépense.
Petite question de Renaud sur l'appli d'Inter. J'habite un village de 300 habitants en milieu rural. Pouvez-vous nous parler de la différence d'inflation entre milieu urbain et milieu rural?
Oui, alors il faut aller voir dans les notes de conjoncture des deux années dernières, Renaud. On a des publications où on a essayé de tenir compte du fait que les paniers sont différents, de biens et services consommés par les ménages sont différents selon leur âge, leur revenu, leur lieu de résidence. Et quand c'est une augmentation forte du prix de l'énergie, alors c'était beaucoup le cas les trimestres précédents, hein, qui boostaient l'indice des prix. On voit qu'évidemment, en milieu rural, on a plus d'inflation sur son panier, ouais, parce qu'on consomme plus de transport et souvent de chauffage qu'en milieu urbain. Il y avait une différence assez forte, hein, entre, si ça pouvait être 2 ou 3%, entre les habitants de l'agglomération parisienne et les habitants des
ils ont plus rurales. Souffert de l'inflation des prix de l'énergie que le milieu urbain.
Voilà.
Deux critiques théoriques sur l'application, Alix et Christophe. Pourquoi, Alix, toujours prendre le PIB comme indicateur pour savoir si l'économie d'un pays va bien ou pas? C'est un indicateur périmé avec l'évolution délirante des économies. Christophe, ne voulez-vous pas réfléchir à la remise en cause de l'indicateur croissance? On sait très bien qu'il est mal corrélé au bien commun, alors que c'est le bien commun qui doit guider les décisions. Polluer activement contribue à la croissance, monsieur le patron de l'INSEE. Que répondez-vous à nos auditeurs, Jean-Luc Tavernier?
Alors, ils ont raison, Pas tout à fait. C'est-à-dire que je dirais que le PIB est insuffisant, mais il n'est pas périmé. Alors, il est insuffisant parce qu'il faut bien rendre compte. Et alors, on le fait. On publie des statistiques tous les jours, vous le savez bien ici, qui n'ont, on fait pas que le PIB. On parle d'inflation, on parle de bien-être, on parle de redistribution.
Mais c'est vrai qu'il y a une obsession à la fois.
D'artificialisation. Alors, il y a une focalisation.
Une focalisation sur le PIB.
Il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que aussi longtemps qu'on s'intéresse aux revenus dans l'économie et au partage des revenus, faut s'intéresser au PIB. Le PIB, c'est non seulement ce qu'on produit, c'est aussi ce qu'on peut distribuer en revenus à l'ensemble des agents de l'économie. Donc le jour où on ne s'intéressera plus aux revenus, on pourra jeter le PIB. En attendant, il faut le garder, mais il faut le compléter par bien d'autres choses. Et nous, on fera de plus en plus d'ailleurs de comptabilité verte ou de comptabilité en matière d'inégalité.
Alors on a encore beaucoup de questions et on en reçoit plein sur l'appli d'Inter. C'est une avalanche de questions précises d'ailleurs sur des auditeurs à vous poser, cher patron de l'INSEE comme on dit. Parlons de la santé des entreprises. Les chiffres inquiétants ont été publiés il y a quelques jours. 240 000 emplois seraient menacés par les défaillances d'entreprises en 2023 en France. Un record depuis au moins 7 ans. Est-ce que vous regardez ce point des défaillances d'entreprises avec attention? Est-ce que c'est un point qui vous fait peur pour l'année à venir?
Oui, c'est un point qu'on regarde pour l'analyse conjoncturelle. C'est une statistique qui est publiée par la Banque de France. Nous, on publie les statistiques de création d'entreprises qui, au passage, sont très dynamiques. C'est plus d'un million en 2023. Ça signifie pas un million d'entrepreneurs nouveaux, parce que ça peut être plusieurs entreprises ou ça peut être des gens qui sont aussi salariés en même temps. Mais il y a beaucoup de création d'entreprises. Les défaillances, on sait que pendant toute cette période Covid, du fait de l'ensemble des dispositifs de soutien, elles ont été très réduites. Donc il y a une sorte de retour à la normale, voire un peu de rattrapage. À ce stade, je n'y vois pas d'alarme plus forte que ça.
Et le taux de chômage qui avait atteint son plus bas depuis 15 ans, je crois. Non, depuis 1982, son plus bas historique à 7% au premier semestre 2023. Il est légèrement remonté au deuxième semestre. Est-ce que vous avez une inquiétude sur le taux de chômage?
Notre prévision, c'est qu'il continue à remonter un peu. On a eu des créations d'emplois très très fortes, et d'ailleurs avec des pertes de productivité dans l'ensemble de l'économie. C'est l'autre côté de la face. Mais des créations d'emplois très très fortes depuis la sortie du Covid. Ça se voyait dans le climat conjoncturel des entreprises, qui nous disaient toutes avoir des difficultés de recrutement, vouloir embaucher, etc. Et ça se retourne un peu. Donc on s'attend à des créations d'emplois beaucoup plus faibles dans les trimestres qui viennent et une petite remontée du chômage. On prévoyait, nous, 7,6 à l'horizon du milieu d'année.
Jean-Luc Tavernier, Jonathan, sur l'application d'Inter, vous demande si vous avez une prévision pour la démographie française sur les 20 à 50 prochaines années.
À l'aune de ces chiffres qui ont été publiés sur la baisse
record
du nombre de bébés.
Alors vous savez, il faut un peu d'humilité, c'est pas facile, faut se forcer, mais il faut un peu d'humilité quand on fait des prévisions économiques. Mais alors, quand on fait des prévisions démographiques, il faut énormément d'humilité. On fait des projections démographiques, on les fait ne serait-ce que pour les besoins du Conseil d'orientation des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites fait des prévisions à horizon de 2070. Pour ça, il faut des hypothèses sur la mortalité, la natalité.
Mais ça va continuer à baisser, c'est ça la question.
Alors vous savez, on a toujours plein de scénarios. Voilà. Est-ce qu'il faut que je vous dise simplement
mouillez-vous.
Non, vous ne mouillez pas.
Ce que simplement je peux vous dire, c'est que ces derniers temps, c'est toujours été les scénarios du bas qui se sont révélés en matière de natalité. On a une baisse de la natalité qui est assez continue depuis maintenant pas mal d'années. Il faut qu'on travaille sur ces sujets dans les mois qui viennent pour comprendre si c'est à tous les niveaux de revenus. Les premières études montraient que c'était à tous les niveaux de revenus, donc c'était pas forcément la responsabilité du durcissement des politiques familiales, mais c'est à confirmer. Si ça concerne les familles d'enfants, les premiers enfants ou les familles nombreuses, etc., etc., on va y travailler et après on reviendra vers vous pour essayer de
mais là, pour l'instant... Là, on ne s'en mouille pas. Dernière question très rapidement, Gary sur l'appli d'Inter. Monsieur INSEE, il vous appelle Monsieur INSEE.
Très bien.
Faut-il épargner ou pas, votre conseil?
Faut-il épargner ou pas? Alors je ne fais pas encore du conseil de patrimoine. Ça, c'est pas du tout. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'un des sujets, un des mystères qu'on a, on a deux mystères en gros dans l'économie. C'est pas de productivité depuis le Covid, importante. Donc le bon côté, c'est les créations d'emplois, mais le moindre côté, c'est la perte de productivité. Et qui dit baisse de productivité dit difficulté à augmenter les salaires, bien entendu. Le deuxième mystère qu'on a, c'est un taux d'épargne qui est, c'est vrai dans d'autres pays aussi, mais particulièrement en France, plus élevé qu'avant Covid. aide. Alors même quand on est dans une situation où il y a de l'inflation, où il y a beaucoup de gens qui disent avoir du mal à joindre les deux bouts, le taux d'épargne global a augmenté. Alors je pense qu'il a augmenté chez les gens qui peuvent épargner pour des raisons de manque de confiance dans l'avenir, etc. Mais ayez confiance et pas trop d'épargne, parce que si on veut que ça reparte, il faut consommer un petit peu quand même.
Ah bah voilà, vous faites quand même du conseil en patrimoine.
Merci beaucoup, Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, d'avoir été à notre micro.